Session Les Trois Sagesses du Père Marie-Dominique Philippe, le 14 septembre 1999 à Saint-Jodard.
Une précision par rapport au cours. Malheureusement, demain, je ne pourrai pas vous faire de cours. Je serai absent. De sorte que c'est aujourd'hui. Maintenant, le dernier cours sur cette petite introduction des trois sagesses. Je vous disais donc en terminant l'expérience qui éveille notre intelligence. Dans toute expérience, il y a quelque chose qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas. D'où naît l'interrogation. L'interrogation naît à partir de quelque chose qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on se dit, comment ça se fait que c'est uni? Pourquoi? Comment? Oui, parce que j'ai oublié, après d'avoir posé les questions, les quatre et même les cinq, il y en a une sixième, le comment. Mais le comment, vous voyez, il est de l'ordre de la réalisation. Comment se fait cela? Comment construire un avion? Comment agir de cela? Vous ne posez pas la question comment fabriquer Dieu? Vis-à-vis de Dieu, le comment disparaît. Puis c'est la finalité. Puisque Dieu, je ne peux que le contempler. Tandis que toutes les réalités que je peux modifier, je me pose la question du comment. Comment cette salle pourrait être changée? Je me souviens la question de l'architecte quand il a commencé ça, parce que j'étais là, les grosses colonnes, hein, la fin. Tout ça, c'est du terrain gagné sur la mer. À partir de là, il s'est posé la question, comment va-t-on faire pour que ce soit une salle, alors qu'il y avait deux bouts collés les uns aux autres. Il fallait en faire une salle, se servir de ces gros poteaux hein, dedans, et que ça ne débrise pas, que ça paraisse normal. Normal, cette salle. C'est pas deux choses collées les unes aux autres, non. Et c'est là l'astuce de l'architecte. Il est arrivé à faire ça. Ce qui fait que cette salle est très agréable. On dirait qu'elle a été faite exprès pour ça. Merveille. Parce qu'on voit tout. Et vous voyez celui qui parle. Ce qui est très important pour rester éveillé, tant qu'on le voit, ça va. Puis, si on ne le voyait pas, on se renfermerait vite. Puis, le poids de la tête l'emporterait. Puis ça sent pas de son, ça roule par terre. Alors, essayons de comprendre. C'est la réalité elle-même qui va commander cette diversité en philosophie. C'est la réalité et mon intelligence face à la réalité. Mon intelligence a ceci de tout à fait particulier et qui est propre à l'intelligence humaine, c'est que je suis lié aux sensations. C'est pour ça qu'Aristote définit l'homme, l'intelligence et la main. Il ne définit pas l'homme, le point de vue de l'animal et la différence spécifique et la raison. Ça, c'est une définition logique. Le genre animal. Nous sommes tous des animaux un peu évolués. Quelle est la différence de l'animal et de l'homme? C'est l'intelligence, c'est l'âme spirituelle. différence spécifique, je définis parfaitement l'homme en disant un animal raisonnable. Ce n'est pas du tout une définition philosophique, hein. C'est une définition logique. Animal raisonnable. La définition métaphysique, ça n'est pas commode. Est-ce que je peux définir l'homme métaphysiquement? Au fond, toute ma philosophie est faite pour découvrir l'homme. Et qu'est-ce qu'il y a de premier que je découvre dans l'homme? C'est le mythe de Prométhée. L'homme est un voleur du feu. C'est très joli ça, hein? L'homme est un voleur du feu. Le feu, c'est divin. Ça vient des dieux, le feu. Et Prométhée l'a volé aux dieux. N'oubliez pas que Marx, étudiant en philosophie, Marx a fait pour sa licence cette dissertation sur Prométhée. Le travail humain provient du feu. C'est vrai. S'il n'y avait pas le feu, on ne pourrait pas faire grand-chose, vous savez. Grâce au feu, on peut faire. Transformer le monde. Mais le feu, c'est pas nous qui l'avons inventé. On l'a volé aux dieux. Selon toute une grande tradition philosophique, le feu, c'est l'élément. Il monte le feu. Il monte. Vous avez déjà vu le feu qui montait? Quand il y a un incendie, c'est très beau à voir. C'est pas drôle du tout, mais c'est très beau à voir. Le feu monte, monte, tout le temps. Et puis, il se perd dans sa montée, tellement il monte. Il est fait pour la montée. Vous pourriez définir le feu, ce qui monte tout le temps. Il ne s'arrête pas le feu. Il faut des obstacles, il faut l'eau pour arrêter le feu. Et ce n'est pas si commode. Demandez ça à des pompiers, ils savent très bien que ce n'est pas commode d'arrêter le feu. Au fond, l'homme, c'est l'intelligence et la main. C'est comme ça qu'Aristote aime de montrer ce que c'est que l'homme. Parce que la première chose que nous découvrons dans l'homme, la première chose, c'est le travail. Regardez le gosse, quand il est sur la plage. Les parents continuent de nager, s'amuser dans l'eau. Lui, il regarde le sable et puis il fait des maisons. Il est architecte. Il construit des maisons. Et on vous lui demandez, vous allez auprès de lui, il explique un peu tes maisons, qu'est-ce que tu fais? Oh, regarde, et puis il vous montre tout ça. Extraordinaire. La première chose que l'homme fait et que l'animal ne fait pas, l'homme travaille. C'est extraordinaire. Et Marx, sous ce point-là, il a raison. On a oublié de faire la philosophie du travail. Et c'est vrai quand vous regardez, hein, où est-ce que la philosophie du travail a été faite? Regardez bien. Cherchez. Aristote en parle. Platon. Aristote en parle parce que l'artiste est un artisan. Il meut la matière. Première chose, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail n'est parfaitement travail que chez l'artisan. L'artisan, c'est un travailleur de qualité. Il fait quelque chose. Et il sait ce qu'il fait. Et le travail de l'artisan, progressivement, s'est transformé en un travail d'artiste. L'artisan, il a fait des choses utiles, des petits sabots. Il a fait des vêtements. Il a fait des chapeaux. Il a fait des chaises. Il a fait des tables. L'artisan a fait des choses utiles. Petit à petit, ah, il a dépassé l'utile Il s'est mis à faire des choses belles, agréables à voir. C'est ça la beauté. La beauté, ce qui est agréable à voir. Ce qui me permet de me reposer. Quand c'est agréable, on s'arrête. Tant que ce n'est pas agréable, on ne s'arrête pas. Agréable à voir. Bon, la philosophie commence, une philosophie réaliste commence par une philosophie du travail. L'homme travailleur. C'est ce que je connais le mieux. Oui, c'est les premiers moments, je crois, très souvent, du chagrin. Le gosse pleure quand il doit aller à l'école. Alors on essaie de faire que le travail soit un amusement. Mais on ne peut pas faire indéfiniment que le travail soit un amusement. Quand il y a des examens, c'est autre chose. On doit travailler. Et le travail a été le premier moment de la séparation avec la famille. C'est curieux. On a commencé par jouer en famille. Le jeu est un travail. Hein. C'est un travail aimé pour lui-même, le jeu. On transforme quelquefois le travail en jeu. Mais le vœu, c'est un travail. C'est sûr. Alors, oui, à partir de là, tout ce qui implique le travail, c'est extraordinaire. La gymnastique, c'est un travail. Le sport, c'est un travail. Il n'y a qu'à demander à une danseuse combien elle doit travailler. C'est formidable ce qu'elle doit travailler. Elle fait ça parce qu'elle aime la danse. Le travail. Premier moment de la philosophie. Il s'éveille par le travail. Et historiquement, si je prends l'histoire de ma philosophie grecque, c'est quand même hein, le fondement de ma philosophie, la philosophie grecque. Si je prends le fondement de la philosophie grecque, c'est quoi ? Ah. Hésiode, les travaux et les jours. Premier livre philosophique, les travaux et les jours. Entre deux, plus beaucoup, Aristote a fait la poétique. C'est un livre de travail artistique, la poétique. Platon, non, il n'a pas distingué l'activité artistique de l'activité humaine tout court. Il les a bloqués. Aristote est le premier. C'est en ce sens-là que les marxistes respectent Aristote. C'est leur arrière-grand-père. Avec un marxiste, vous dire je suis un aristotélicien, on se donne la main. Parce que la philosophie réaliste d'Aristote commence par la réflexion sur le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Quelle est la diversité des travaux? Oui, tout de suite la cause matérielle. Je transforme le fer, je transforme le bois. C'est pas le même travail. Je transforme l'ivoire. Je transforme ma pensée. Je transforme ma parole. Et un travail, on travaille sur soi. Le terrain premier sur lequel vous travaillez, c'est vous. C'est vrai, le gosse, premier travail, hein, il a commencé à marcher. À se tenir debout et à marcher. Il est tombé plusieurs fois. Chaque fois, il pleurait. Il se relevait. Il marchait. Premier travail. La danse. Un travail sur le corps humain. Mais bien plus élégant, évidemment, que le gosse qui commence à marcher. Mais ça continue. Ça continue. Et ainsi de suite. Donc, le premier moment de la philosophie, c'est une philosophie du travail. Et tout de suite, je vois qu'il y a deux dimensions pour l'homme de se développer. Le travail et l'intention qu'il a dans le travail. C'est pour ça que c'est si grand que Jésus a commencé par travailler. Et qu'il a choisi comme père le menuisier qui travaille sur le bois. Ensuite, il y a un travail, la responsabilité que j'ai en travaillant. Et avec le travail, la philosophie de l'outil, tout de suite. L'outil se progresse énormément. Et il modifie le travail. Le travail n'est plus le même du tout grâce à l'outil. Et la diversion du travail vient de l'outil. Et quand l'outil est tellement compliqué et qu'il coûte si cher, il finalise d'une certaine manière le travail. Arriver à faire un avion, un sous-marin électronique, extraordinaire. Et vous voyez, j'arrive à faire des outils qui me portent, et qui me donnent des ailes, qui me permettent des sous-marins extraordinaires. Conquête de l'eau, conquête de l'air, conquête du feu. Les éléments sont acquis par le travail. Et j'arrive à connaître ce que c'est que le fer en travaillant, ce que c'est que le bois en travaillant. Quand je travaille plus le bois, je ne sais pas ce que ça veut dire. La différence entre le chêne et l'être. Ah oui, ils ont des feuilles différentes. Mais non, ils ont un bois différent. C'est ça qui est important. Le chêne, la différence du chêne. On disait l'autre jour, au bout d'une vieille maison qu'on était en train. Il y avait encore les poutres de chêne. On les a gardées. On les a supprimées sans le sein. C'est une erreur énorme. Parce que c'est plus solide que n'importe quoi. Le chêne. Et dans les pays chauds, on a des bois de fer. Des bois de fer. Des bois qui sont durs comme le fer. Donc, premier, philosophie du travail. Deuxièmement, philosophie de l'action humaine, l'éthique. Dès que je pense au travail, je vois tout de suite que ce travail peut être fait avec des intentions très différentes. Je peux travailler pour me gendarmer contre les ennemis, me gendarmer contre les serpents, me gendarmer contre les éléphants. C'est vrai. Me gendarmer contre les moustiques. La maison, c'est un instrument extraordinaire. Puis on a fait une maison roulante. Et au terme, on est arrivé à l'auto. Et puis au bout d'un certain temps, l'auto s'est mise à voler. C'était extraordinaire. Et durant toute cette... On voit tout ça, et c'est ça toujours le travail. Le travail a poussé à l'invention, à faire des choses extraordinaires, a poussé à faire des outils. Et l'outil est devenu tellement phénoménal qu'il finalise mon travail, alors qu'il est l'œuvre du travail. Les choses s'inversent. Et la grande révolution dans le travail, c'est quand l'outil devient tellement important et tellement efficace qu'il commande l'homme. Et là, il y a tout un champ extraordinaire au point de vue philosophique qui est très peu exploité, qui commence à l'être. On commence. Le marxisme a réveillé les théologiens pour travailler, pour réfléchir sur la théologie du travail. Et pour réfléchir sur la théologie du travail, il fallait la philosophie du travail. Et on s'est mis à faire la philosophie du travail. Mais l'économie est passée devant. Toute l'économie repose sur la philosophie du travail, radicalement. Et puis alors après, le point de vue moral. On réfléchit sur les activités humaines. L'homme est capable d'aider son semblable. L'amour. voyez, les deux expériences fondamentales de l'homme, le travail, l'amour, l'amour d'amitié. C'est, je crois, les deux grandes expériences sur lesquelles toute la philosophie humaine, toute anthropologie repose. Et une philosophie a commencé comme celle-là. La philosophie d'Aristote a commencé comme celle-là. Philosophie du travail. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit refaire aujourd'hui pour recomprendre ce que c'est que l'homme, pour comprendre une philosophie réaliste. Qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est que le travail? Que représente la philosophie d'homme qui crée un milieu de vie? Le milieu de vie est changé quand on fait une maison. Le milieu de vie est changé quand on a une bicyclette ou une auto ou un avion. Complètement changé. Et ainsi de suite. Or, la morale, la philosophie de l'activité humaine va très loin. Va très très loin. L'homme a des intentions, des choix de vie. Et puis, la morale et l'art, le travail s'unissent. Je travaille pour que ma maison, que mes enfants puissent avoir de quoi vivre. Alors, le fruit du travail se vend. Et à partir de là, l'économie est commencée. Il faut cet aspect génétique, c'est très important de voir ça. Et puis, troisièmement, grâce à l'amitié, on peut comprendre ce que c'est qu'une communauté. La communauté humaine a commencé par la famille. Et vous voyez là, la genèse et le philosophe se rejoignent. Dieu créa l'homme et la femme. Il les a créés dans une amitié. C'était facile qu'ils s'aiment, puisqu'ils étaient les seuls. La mauvaise amitié, ça a été entre Ève et le serpent. Parce que je crois que Adam n'interrogeait pas assez Ève. Et Ève s'ennuyait. Et subitement, elle a trouvé le serpent. Qui avait une tête plus intéressante que celle d'Adam. Et qui avait des yeux plus perçants que ceux d'Adam. Et elle s'est laissée fasciner. Vous avez déjà vu un serpent qui fascine, un boa qui fascine un petit oiseau? C'est terrible. Ou Ève, le petit oiseau. C'était un petit oiseau, Ève. Fasciné. Et Adam est là. Je sais pas ce qui se passe. Adam ne connaissait pas ce langage du serpent. C'est extraordinaire de voir ça. Et philosophiquement, je peux lire ça, c'est merveilleux. Je vois la philosophie de l'art, la philosophie éthique, la philosophie de la communauté. Elle commence par la famille. Et ça commence tout de suite dans la lutte. Marxisme reprend ça d'une façon tout à fait différente. Hein. Il a repris ça. Il savait que c'était quelque chose de très fondamental et que c'était capable de faire une révolution complète au point de vue humain. Et il a réalisé cette révolution. C'est quelque chose. Et on ne peut plus revenir en arrière. Le marxisme a existé, il existe. Et il fascine tout le temps. Il y a quelque chose d'étonnant. Quand l'homme était seul, il n'y avait pas la lutte. Il n'est pas resté longtemps seul. Il y a tout de suite eu les situations triangulaires. Écoutez les psychologues parlant des situations triangulaires. Ils disent toujours que c'est très difficile. La première situation triangulaire, c'est le serpent, Ève et Adam. Comment ça s'est terminé, cette situation triangulaire ? Un désordre terrible. petit oiseau s'est laissé mordre par le serpent. Le venin. C'est extraordinaire. Alors, est-ce mythique? Est-ce que c'est le logos? C'est mythique. C'est sûr, c'est mythique. Ça s'est pas passé du tout comme ça. Pas du tout, le serpent. Le démon, aime les petits cochons, mais le serpent, il l'aime pas tellement. Il l'a aimé pour épater Ève, je crois. Elle n'aurait pas eu du tout la même réaction que le petit cochon. Sûrement pas. J'en suis sûr. Ça, c'est une alliance secondaire. Tandis que ces alliances-là, entre le serpent et Ève. Mais ce qui est intéressant, moi, de saisir le logos à travers ce mythe, et le logos à travers ce mythe, la pensée, c'est de voir le couple, la famille, et de voir cette situation triangulaire, la lutte, dans le troisième. C'est là où je saisis fondamentalement la philosophie pratique. La philosophie pratique, c'est philosophie de l'art, philosophie éthique, philosophie politique. Vous voyez, c'est le triangle de base. Vous avez vraiment un triangle de base. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est la philosophie pratique. La philosophie pratique, il y a les trois dimensions. Et toute philosophie réaliste commence par ça. Vous voyez, la philosophie idéaliste commence par « je pense ». Mais pas du tout. Il faut d'abord manger. Hein, vous le dites selon le vieil adage. « Primum vivere, secundo philosophare ». Vivere, bien respirer, bien manger, bien boire. C'est sûr, c'est le triangle de base. Et pour ça, il faut avoir son petit jardin. Nécessairement, pas possible autrement. Il faut donc cultiver. Il faut donc avoir des petits animaux. Parce que une portion de viande, quand même, c'est agréable. Alors, il faut ça. Et puis, toi. Alors, d'une certaine manière, on a là la philosophie pratique. Et il faut toujours revenir à ça. Tout le temps. Connaître l'homme. Est-ce que je connais l'homme en regardant ce qu'il fait, le facere, ce qu'il agit, et puis la communauté. L'homme a l'esprit. L'esprit et la main. L'esprit. L'esprit, il cherche. Il cherche à connaître pour l'amour de connaître. Alors, de cette philosophie pratique va naître la philosophie spéculative. Alors, on a cette distinction fondamentale d'une connaissance pratique, d'une connaissance recherchée pour elle-même, pour la vérité. La philosophie pratique, c'est la recherche de la vérité pour elle-même. Je recherche la vérité pour elle-même. Je recherche ce qu'est l'âme humaine, ce qu'est le corps. Et d'abord, ce qu'est le corps, c'est sûr. Et ce qu'est le corps, il est en devenir. Avec le corps, j'ai la connaissance du devenir. Je vieillis ou je grandis. Je grandis jusqu'à un certain moment. Ça dépend. Il y en a qui grandissent jusqu'à 2 mètres. Hein? Ça existe. Ils grandissent jusqu'à 2 mètres. Alors après, il vaut mieux plus, puisque toutes les portes français. Alors, voyez, première philosophie spéculative, la recherche du devenir. Ce qui émue. Ce qui émue, c'est bien mon corps. C'est à cause de mon corps que je suis ému. Tout ce connu, cette première expérience hein, d'un voisin qui était à côté de nous et qui attendait le bon moment pour nous donner un bon coup de poing et on est rangé par terre. La chute. C'est une expérience qu'on fait et ça s'enracine dans mon corps, la chute. On a des bleus. Hein. C'est la chute, le corps, il est mu. Mon corps immobile, il est mu. L'expérience de la chute. Alors ça, ce qu'on appelle, ce qui se développera en disant oui, ça, il doit être philosophie de la nature. C'est comme ça qu'Aristote la parle. C'est la philosophie du corps, la philosophie de toute réalité sensible. Je cherche à savoir qu'est-ce que ça représente, une réalité qui est mue. Il y a ce fait, c'est que le corps humain est un corps qui vit. Je ne peux pas les séparer, mais je peux les distinguer. Je peux distinguer le point de vue du vivant, philosophie du vivant. Mon corps est une réalité vivante. Et parce que mon corps est une réalité vivante, je distinguerai l'âme et le corps. Qui supprime l'âme, supprime le vivant. Et il y a cette chose très curieuse, c'est quand je suis malade, je vieillis, mon corps perd sa souplesse. Grâce à la vie, mon corps est souple. Il peut voyager lui-même. Alors il se sert aussi d'instruments pour aller plus vite, la bicyclette, tout ce qu'on invente. On a inventé des quantités de choses pour la vitesse. Tu vois, on voit bien. Puis, philosophie de ce qui est. L'homme a le corps, l'homme est vivant, l'homme est. Vous voyez comment je cherche toujours plus loin. Il y a comme une espèce de montée. Alors, je peux me poser la question, y a-t-il un premier dans ce qui est mu ? J'interroge. Non. Ce qui est mu, en tant qu'il est mu, c'est l'infini. Il n'y a pas de premier. Au-delà de ce qui est mu, il y a l'immobile. Y a-t-il un premier dans le vivant ? Non. Les vivants, tels que je les connais, impliquent toujours un corps. Et donc, il y a une potentialité terrible, le corps. Dans ce qui est, y a-t-il un premier ? Y a-t-il un être premier ? Voilà la grande question qui, au fond, me meut depuis le début. Je vois que dans le monde des corps, de ce qui est mu, il n'y a pas de premier. Dans le monde des vivants, il n'y a pas de premier. Ce qui est, il y a un premier. Et toute mon intelligence dans cette recherche spéculative de la vérité pour la vérité. L'intelligence découvre l'être premier. Oui, alors c'est ce qu'on appelle ce qui est la métaphysique. La métaphysique, c'est une expression qui vient des bibliothécaires. Toute la philosophie d'Aristote était perdue à la suite d'un extraordinaire. On découvre les livres d'Aristote, tous les livres de la philosophie de la nature, il y en avait des quantités. Et dans la philosophie de la nature, on mettait aussi la philosophie du vivant. Puis tout d'un coup, on découvre un livre qui n'est plus la philosophie de la nature. Alors on dit métaphysique. Physique, le monde physique, ce qui est au-delà du vivant, ce qui est au-delà du monde matériel qui est mu. L'être, ce qui est. Et l'être humain, il est, j'existe. J'existe dans mon corps, j'existe dans mon âme. J'existe quand je réfléchis, j'existe quand je dors. Quand je dors, je montre bien que mon corps, il existe. Tandis que si vous dites que vous n'existez que parce que vous pensez, alors qu'est-ce que vous faites quand vous dormez? Vous êtes néantisé. Vous disparaissez. Une fois que je découvre l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. Je dis, c'est curieux, cet être premier, il est exactement comme ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Ce que certaines traditions religieuses appelaient Zeus, le dieu des dieux, le roi des rois, Zeus, l'être premier. Et quel est le lien de cet être premier avec ce qui est moi-même, quel est le lien? C'est la création. L'être premier qui est antérieur à moi, puisqu'il est éternel, il n'est plus dans le temps. Ce qui est dans le temps, c'est tout ce qui est dans le devenir. Dès que j'ai une réalité qui n'est plus dans le devenir, elle est au-delà du temps. Et l'au-delà du temps, c'est l'éternité. Donc je n'ai pas l'expérience. Et je pose parce que le temps appelle l'éternité. Le temps n'existerait pas s'il n'y avait pas l'éternité. Et la seule chose dans le temps qui existe, c'est l'instant présent. Quand je vous parle, au moment même où je vous parle, cet instant présent existe. Mais tout de suite, il vient le passé. Et le passé n'existe plus, puisqu'il est passé. Il existe dans ma mémoire. Il existe dans ma mémoire. Tout le passé de ma vie, il existe dans ma mémoire. Et mon corps a emmagasiné tout ça. Ça, c'est sûr. Ici, je précise, je découvre donc un être premier que nous appelons Dieu. Puis je regarde les relations de cet être premier de Dieu. Et puis je regarde ce que je peux dire de Dieu. Et j'ai à ce moment-là ce qu'on appelle la théologie naturelle. Aristote a parlé d'une théologie naturelle. Et on n'a pas attendu la révélation pour parler de théologie. Le mot théologie est un mot philosophique. C'est pour ça qu'on est obligé de préciser doctrina sacra. Ça, c'est Thomas d'Aquin. Doctrina sacra. Et la doctrine sacrée est une théologie. Il y a diverses théologies. Il y a une théologie qui part de la révélation. Et il y a une théologie que l'homme est capable de découvrir. Une théologie naturelle. Alors, si je regarde toutes ces parties de la philosophie, maintenant je vais les compter. Je commence par la philosophie de l'art. 1. Tout de suite, je vois la philosophie éthique. 2. Et la philosophie de la communauté, 3. Puis, philosophie de la nature, 4. Philosophie du vivant, 5. Métaphysique, 6. Théologie naturelle, 7. Vous avez donc 7 parties de la philosophie, de la sagesse philosophique. Dès que je découvre Dieu, l'être premier, je découvre ma source, Dieu. Et je découvre au plus intime de moi-même. la découvre aussi dans la nature, puisque tout vient de Dieu, dans son être. Mais les réalités physiques, elles n'existent que dans le devenir. Tout est relatif, tout change. Et votre corps aussi change. Et votre corps aussi est relatif. Alors, il y a quelque chose qui n'est plus relatif, c'est mon âme. C'est l'aspect spirituel de mon âme, l'esprit. Et la métaphysique essaie de saisir ce qu'il y a de tout à fait ultime et particulier dans mon âme. Je peux contempler celui qui est. Celui qui est. Toute mon intelligence prend toute sa force. Je dis, elle prend tout son élan parce qu'elle est capable de découvrir l'être premier. Et c'est là la sagesse. Et je peux, à partir de cette connaissance de l'être premier, découvrir ce qu'est la création, ce qu'est la providence, ce qu'est le gouvernement de Dieu. Et je peux, à partir de là, essayer de comparer constamment, dans un jugement de sagesse, l'être créé que je suis et Dieu. Alors, ce qui serait intéressant, je ne le fais pas, mais si je faisais un courant demain, n'est-ce pas, vous allez le faire vous-même, c'est que c'est toujours la recherche des principes propres, ce que je vous ai dit, des principes propres de l'activité artistique, de l'activité morale, de l'activité politique. Je suis dans l'ordre pratique. Et j'essaie à partir de là où je découvre l'homme. L'homme dans ses activités, donc dans ses fruits. L'homme est l'arbre qui fleurit dans l'activité du travail, dans l'activité artistique, qui fleurit dans l'activité intérieure morale, responsable de l'amour d'amitié, qui fleurit en découvrant qu'il peut coopérer avec un autre homme. Ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent s'unir et former une communauté. Mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Parce que je me pose une question, mais d'où je viens? Comment ça se fait, ça? Comment expliquer? Quelle est ma finalité? C'est pas travailler, 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 c'est pas une finalité. L'amour d'amitié, c'est très très bien, mais mon ami peut mourir. Alors, qu'est-ce qui va me finaliser? Je me pose la question, existe-t-il un être premier? Et pour découvrir l'être premier, il faut prendre un autre registre de connaissance. J'étudie le devenir, j'étudie le vivant, j'étudie ce qui est. Je ne peux pas découvrir Dieu par le vivant, puisque il n'y a pas de premier. Je ne peux pas découvrir Dieu par le devenir, il n'y a pas de premier. Il est au-delà du vivant biologique, au-delà du vivant. Au-delà du devenir, c'est l'être. Il est. Et là, je découvre celui qui est premier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ordre des diverses recherches, toujours, ce que je vous ai dit, en quoi, qu'est-ce, d'où ça vient, en vue de quoi, l'ordre de ces différentes questions est différent dans chacune de ces parties. Et ça, alors ça, c'est le point de vue qu'il faut découvrir. Et au fond, il faut découvrir ces deux essentiels. Le point de vue de l'art, le point de vue moral. Deux parties essentielles. Et là, il y a la causalité finale et première. Quel est le bonheur de l'homme? La causalité matérielle est première. c'est vrai, c'est que la philosophie de l'art, tout de suite, regarde la matière. Et la philosophie morale regarde tout de suite le bonheur. Et dans la recherche spéculative, on retrouve encore ces diverses causalités, selon un ordre différent. Et donc l'organisation de ces diverses causalités fait la différence de ces sept parties de la philosophie. Et ces sept parties de la philosophie, c'est ça qui est très curieux, se retrouvent dans l'homme. Si je cherche ce qu'est la personne humaine, je vois que la personne humaine a sept dimensions. De sorte que, vous voyez, ce n'est pas seulement historique que ces sept parties ont été faites avec Aristote, mais c'est un ordre qui s'impose à moi si je veux connaître ce qu'est l'homme. Il a sept dimensions. Je peux découvrir progressivement, et c'est assez intéressant de voir ça. C'est toute la philosophie qui se structure pour découvrir ce qu'est l'homme. Et l'homme ne peut être parfaitement découvert que lorsque je découvre celui qui est au-dessus de l'homme, qui est son créateur. Alors, nous nous retrouverons bientôt. Je ne sais pas exactement quel est le cours suivant, mais on se retrouvera pour faire ensemble ce petit pèlerinage. Vous voyez, ce petit pèlerinage. Alors, on verra exactement. Ayez cette table, cette toile de fond, tout le temps. Oui, bon, développer, c'est important. On a besoin d'un esprit de synthèse. On a besoin de comprendre ce que c'est que l'homme. L'homme est ici et l'homme est ici. Deux visions différentes, pratiques, spéculatives. Toujours. L'homme dépasse l'univers. L'homme est dans l'univers.